c'est un investissement. Pis ces gars-là sont pas cons. Les Stradman puis des DDE, ces affaires-là, là, les autres, ils flippent tout le temps des supercars. Ils perdent pas d'argent. Au pire, ils vont arriver kiff-kiff, mais ils vont avoir fait de l'argent avec leur contenu. Ou des fois, ils vont faire attention à leur véhicule puis ils vont faire un profit.
Oui.
Tu sais, faut... Je sais qu'on parle de supercar, puis tu sais, TRX, c'est un super truck. Il y a certains véhicules clés comme ça qui ne gardent pas de... qui gardent leur prix. Bienvenue au Truck Podcast.
Aujourd'hui, on vous parle de Ram TRX. Plus spécifiquement, on a remarqué que plusieurs YouTubers et gens dans le domaine se sont procurés des Ram TRX.
Oui, si vous n'êtes pas au courant, on possède un Ram 1500 TRX 2023. Ça fait plus de 6 mois qu'on l'appartient maintenant. On est toujours très satisfait.
Mm-hmm.
Puis on vous disait aussi que des fois, il y a des véhicules que c'est un certain investissement ou des fois, il y a des véhicules qui risquent de presque pas perdre de valeur ou prendre de la valeur. C'est un des sujets que j'aime beaucoup parce que c'est un petit peu aussi une question d'un peu d'investissement. Puis les véhicules en général ont souvent une mauvaise image que c'est comme si tu achètes un auto, tu vas toujours perdre de l'argent. Puis cette affaire-là, moi je suis pas d'accord avec ça. Et je pense que si on connaît bien le marché automobile, puis on connaît bien nos choix, puis comment le temps de flipper. Je pense qu'il y a certains véhicules, des fois, on peut faire de l'argent si on a des contacts aussi dans l'industrie. Dernièrement, j'ai remarqué qu'on n'était pas les seuls à avoir acheté un Ram TRX.
Oui.
J'ai fait une petite liste vite fait, puis je sais pas tous ceux qui en ont aussi, toutes ces personnes-là, ils en ont. Mais c'est juste que je regardais dernièrement des vidéos sur YouTube de la chaîne DDE, fait que Daily Driven Exotics, avec Damon et Dave. Puis là, c'est ça. Là, Dave, il allait chercher son nouveau Daily. Puis, en gros, il s'est acheté un TRX noir, pareil comme le Note. Mais Damon, plus tôt, il s'avait acheté aussi un TRX.
Oui.
Puis, si vous n'êtes pas au courant, c'est qui la gang de chez DDE, mais c'est vraiment des Daily Driven Exotics. Fait que c'est des gars qui conduisent des Lambo, des McLaren, ils modifient ça. Ils ont des Hummers. Puis c'est des gars qui ont toujours des bons véhicules quand même, plus de luxe. Ils sont moins pick-up. C'est pas le genre à s'acheter des TRX. C'est plus le genre à s'acheter des G-Wagon.
Non, c'est ça.
Fait qu'ils ont toujours eu des G-Wagon, cette affaire-là. Puis là, on dirait que dernièrement, ils ont essayé ce véhicule-là puis sont tombés en amour avec ça.
Oui, c'est
ça,
compréhensible.
Fait que premièrement, je veux dire, c'est comme pas juste une question d'investissement. Je vais venir plus tard là-dessus. Mais c'est comment que le véhicule est bien balancé. Puis c'est un des véhicules les mieux réussis qui a jamais été fait chez Ram. Puis j'en parlais dans l'épisode du Ram 1500 Limited Night Edition. Comment que c'était le jour et la nuit entre un Ram normal comme top of the line avec tous les gadgets, puis le TRX.
Ouais.
Puis on voyait que c'était comme vraiment une autre équipe, on dirait d'ingénieurs.
Là, qui ont travaillé
sur ce modèle-là. Puis on le voit, les gens qui connaissent vraiment les véhicules, ils tombent en amour avec le TRX.
Oui.
Puis c'est pas une question juste de faire du hors-route, c'est un véhicule hors-route qui est très bon sur la route.
Mm-hmm.
On en parlait ça aussi dans notre épisode contre le Ford F-150 Raptor R, que le Raptor R, lui, était mieux peut-être adapté pour justement faire du hors-route, mais il était pas aussi bon sur la route que le TRX.
C'est ça.
Fait que là, j'ai fait ma petite liste vite fait de ceux que je suis un peu sur Internet. Il y en a que j'ai peut-être oublié. Vous me le direz dans les commentaires si j'en ai oublié. D'abord, regardez Gas Monkey Garage, Richard Rawling. Fait que le propriétaire, longtemps, lui, il a conduit un TRX puis il l'a fait tirer, puis peu importe. Lui, il a conduit ça longtemps. Cletus McFarlane, son mécano, il conduit un TRX. Lui, il conduit un Raptor R. Mais c'est vraiment leur daily driver. Je viens de dire, là, c'est pas leur jouet. Parce que les autres, ils ont des voitures de course, non, des Lambo, etc. Mais c'est le véhicule qui ont le cul dedans tous les jours.
C'est ça.
Fait que tu sais, ça veut rien dire long. Le Street Speed 717, lui, je pense qu'il y en a deux maintenant. Je pense qu'il va en acheter d'autres. Je pense qu'il y en a un pour lui, puis il y en a un qui fait tirer directement genre avec ses trucs de vêtements, tout ça. By the way, je ne veux pas casser votre fun, là, mais quand vous participez à tous ces concours-là, à cause que vous êtes au Québec, vous n'êtes pas éligible.
Oui. Il y en a qui ne savent pas.
Pourquoi, Eve, on ne peut pas gagner au Québec?
Ah, parce qu'il y a plusieurs lois qui empêchent de faire de l'argent ou gagner des concours au Québec.
C'est parce que l'affaire, c'est que si tu as un concours... Puis ça dépasse un montant d'argent. Je pense que c'est vraiment rien. C'est comme 1000. Là. Je ne me souviens pas. Dernière nouvelle, c'était ça. Là.
C'est pas avec l'Auto-Québec.
Tu ne l'as pas enregistré avec l'Auto-Québec, mais c'est comme tu peux pas gagner.
Ouais.
À un moment donné, il y avait un autre. Là, c'était, je pense que c'était 88 ou je sais pas trop quoi là, qui faisait ça. Puis ils l'ont dit, genre, les Québécois ne pouvaient pas gagner.
Mm-hmm.
C'est la seule province au Canada. Fait que des fois, c'est un concours juste pour les États-Unis. Mais des fois, il inclut le Canada. Mais dites-vous toujours, le Québec est exclu de ça.
Non, c'est ça.
Parenthèse, on est-tu plate pour à peu près ici? C'est quoi qui se passe? Pourquoi on est tout le temps bloqué?
On est bloqué dans tout. Écoutez, ailleurs, comme tu dis, parenthèse, sur TikTok, c'est débloqué au complet. Là. T'sais, tu peux faire de l'argent comme avec les vues que tu as, tout ça, sur des vidéos normaux ailleurs, ici, non. Il y a tellement de plateformes.
Le TikTok Shop.
Oui, TikTok Shop aussi.
Il est bloqué au Canada.
Il y a tellement d'options, juste si on regarde les réseaux sociaux. Là, il y a tellement de choses bloquées sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. On est comme débloqué à moitié ou pas pantoute.
Nous, c'est un méga désavantage. Ouais. Là. Je vais être franc avec vous. Là, on adore faire du contenu en français pour les Québécois, tout ça. Mais on dirait qu'on est bloqué de faire de l'argent partout. C'est comme, même si t'as une vidéo là, on a été bloqué. Là, tu veux partir un magasin sur ça? Non, t'as été bloqué. Telle autre affaire? Non, ça t'es bloqué. Ça, il y a telle affaire. Tu sais, c'est comme. Oh, je sais pas, il est où mon piton là?
Non, pas ça. Celle-là, il est approprié aussi.
C'est beau, là, les autres médias ont de la misère à arriver, là, aux affaires-là, mais tu sais, ils sont financés à 19 000% par le gouvernement. C'est ceux qui sont indépendants comme nous autres. Laissez-nous vivre. Là. Arrêtez de mettre des lois pour nous bloquer de faire de l'argent partout.
Pourquoi tu penses que le trois quarts du monde qui font notre job vont déménager en Floride?
Oui, c'est... En tout cas, à un moment donné, c'est ça qui arrive. C'est comme nous, on essaie de perdurer dans un marché québécois, mais tu sais, on l'a fait en anglais auparavant, puis peut-être que de plus en plus, on va recommencer à en faire en anglais. Mais tu sais, on aimerait ça vraiment faire de quoi spécial en français, québécois, pour vous. Puis tu sais, je trouve qu'on a une bonne audience sur ces choses-là. Mais tu sais, c'est comme tout le temps, on te bloque.
Bloqué.
C'est une parenthèse, je l'ai fait. Fait que là, il y a Weston Chaplin qui a ça. Lui, il a le Mi Twin Turbo, le sien. Là, il y a plein d'auto modifiés. Fait que lui, il est orange, il est cool. Le Daily Driver de Stradman, c'est un TRX. S'il y a bien une autre personne qui a plein de supercars, pareil comme DDI, c'est Stradman. Stradman, il conduit des Bugatti, des Koenigsegg, etc. Mais son Daily Driver, qui s'en va quand
même. TRX.
C'est un TRX. Richard Hammond, il y a un TRX aussi, même s'il est en Angleterre. Puis lui, c'est un Hennessy, je pense, c'est un Hennessy 1000. Fait que lui, il conduit ça. Puis j'ai même vu des vidéos que sa fille conduisait ça. Fait que tu sais, ça veut juste dire que. Les vrais enthousiastes, ils aiment ce véhicule-là. Ils sont capables d'apprécier comment qui est bien balancé. Puis même si c'est des gens qui sont habitués avec des supercars, avec des véhicules extrêmement de luxe, ils apprécient comment que le véhicule se comporte, comment qu'il est pratique, tout ça. Puis tu vois, là, les gars dédiés sont comme, pourquoi je conduisais pas ça avant? Puis
oui.
Les deux, on a acheté. Là.
Ah oui.
Puis il faut le dire, c'était le temps d'en acheter.
Oui.
Parce que là, le marché, on va se le dire, on a fait une vidéo déjà là-dessus. 2024, c'est la dernière année. Hellcat, c'est la dernière année. C'est sûr et certain que c'était le temps d'acheter. Est-ce que là, maintenant, quand on enregistre cette vidéo-là, c'est le temps d'en acheter? Pas sûr.
Bonne chance. Bonne chance en trouver. Ils sont rendus extrêmement, extrêmement chers.
J'ai fait une analyse vite fait. J'ai analysé un petit peu le marché. Présentement, surtout les Final Edition, là, les 2024, le marché actuel se trouve entre 165 000 à 200 000 $. Il y a bien des places qui l'affichent à 200 000 $.
Ouais.
Je rappelle, il n'y a pas longtemps, en 2023, là, le prix de base était à peu près à 103-104.
Oui, de base.
Fait que c'est sûr que celui à 200 000, c'est pas un de base, puis c'est pas la même affaire, mais quand même, juste en 2023 puis 2024, le prix de base, le MSRP, a monté de 20 000 $.
Oui.
Fait que c'est pour ça que nous, quand on l'a acheté, c'est comme ça me prend un 23 tout de suite. Là.
C'est ça.
Puis je veux pas attendre pour un 24 parce que je savais que...
On sentait la soupe chaude. Puis on l'a vécu aussi. Il y a plusieurs, même abonnés, qui nous ont écrit dans les derniers mois, qui étaient comme, j'avais commandé un TRX chez mon concessionnaire. Là, j'arrive, puis whoop, un petit premium. Premièrement, le prix a monté de base du ouais. manufacturier. Et là, ils se prennent un premium en plus. Et comme, c'est comme 40 ou 50 000 de plus que ce que j'avais prévu.
Ça, je trouve ça ordinaire. Hasard. Oh. Okay? T'sais, mettons, je vais vous donner un exemple. Là. Mettons, la personne qui commande un Demon 170, là, le 170. Puis là, dès le début, ils disent comme, oh, ben là, le véhicule va coûter... X non, mettons 100, je m'en souviens pas combien il coûte au Canada, là, 130, mettons. Mm-hmm. Ils disent, bon, on va te rajouter un 20 000 ou un 50 000. Là, tu signes ton papier, puis tu commandes. Tu as dit, je veux telle couleur, si, ça, ça. Ça, c'est correct. Il y a une grosse demande pour le véhicule. Je comprends qu'il y a des gens qui sont capables de débourser plus d'argent mm-hmm. pour le véhicule. Mais si tu commandes ton véhicule, puis toi, tu t'attendais à payer tel prix, puis là, quand le véhicule vient te faire shipper,
50 000 de plus.
Au dealer, avec la couleur que tu voulais, puis tous tes gadgets. Puis là, il dit, bon là, surprise, là, on te met...
Un premium
de 50 000. Ça, c'est ordinaire.
Mm-hmm.
Puis, vous êtes chanceux, là, au Canada, là, puis au Québec, là. Je veux pas m'attaquer aux concessionnaires, là. Aux États-Unis, ça brasse pas à peu près. Moi, j'en ai un que je suis, là, un gars qui est full fan de Dodge, là, puis toute la kit. Puis, lui, puis un autre gang de YouTubers, ils s'attaquent, là, ils s'acharnent sur les dealers qui crossent le monde.
Ouais.
Puis ça va pas bien. Là. Il y en a une place là, que ça a tellement viré mal. Là, ça s'est tombé viral. Ça a tombé jusqu'aux oreilles de chez Stellantis.
Stellantis, ils n'ont pas été très contents.
Ils n'étaient pas contents. À ce qui paraît, quasiment tout le monde qui était impliqué dans le processus d'achat ont été mis à la porte. C'est pas des farces. Là, le gars, je trouve que t'sais, ça a tombé viral puis il n'arrête pas de s'attaquer au dealer à un moment donné.
C'est
correct. Là.
T'as tapé ses doigts. Là.
Pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est l'histoire du vétéran qui s'avait acheté un Demon 170. Puis il l'avait tout commandé, vert, comme qu'il voulait. Puis mm-hmm. lui, il était déployé, je pense, en Irak ou peu importe quelle part, là, où est-ce qu'il y a la guerre. Puis le dealer, ils ont reçu son véhicule. Puis lui, il avait signé un papier, genre, je le commande, puis j'accepte payer un.
Un premium,
toute la kit. Ils l'ont, en gros, sans le prévenir, ça je me souviens pas tous les détails, puis c'était pas ça le sujet du podcast aujourd'hui. Ils l'ont vendu à une autre personne, sans sa permission, pour un plus cher premium. Puis là, quand Dodge a su ça, parce que justement, à cause du gars que je suis, que je parle, que j'étais un peu ami avec, là, ça a viré mal. Ils se sont excusés, ils ont essayé de reprendre des affaires là avec leur magouille, ça n'a pas marché. Ça a monté jusqu'aux oreilles de chez Dodge, tout le kit.
Ouais.
Là, Dodge, ils ont dit c'est correct, garde-les ton char. Nous autres, ils ont reparti la production du 570 parce que c'était fini, ils n'en faisaient plus. Avec toutes les couleurs qu'il y avait, puis supposément, ça va être Jay Leno qui va livrer le Demon 170 à ce vétéran-là. Je ne sais pas s'il va le payer ou s'il le fait donner.
En tout cas, ils ont réparé.
Il va l'avoir. Puis l'autre Demon 170 à ce dealer-là, lui, ben, ils vont le vendre, mais ils vont tout donner à la charité, supposément.
Ouais. Mais tu sais, ça, c'est comme tu dis, c'est pas choquant que le concessionnaire décide qu'il se prenne un premium. C'est comme, je décide parce que ce véhicule-là est rare, parce que c'est édition finale, parce que X, Y, Z raison. Je prends un premium dessus, mais tu le dis. C'est comme ça, puis moi, je le vends comme ça. Comme tu dis, le gars, s'il accepte, il est comme, je m'en fous de payer plus cher. C'est ça que je veux, puis je suis correct avec ça. Ça s'appelle faire de la business honnête, tu comprends?
Mm-hmm.
Mais quand tu dis rien, puis là, tu fais un frais mystérieux, puis c'est la vie, puis là, tu bullshit une histoire là, autour de tout ça, là, de frais mystérieux de préparation. Là. Ça, moi, j'ai de la misère à accepter ça. Vraiment.
T'as travaillé dans un concessionnaire.
Il y a une façon de faire. T'as le droit de te prendre une cote. Si le gars décide, moi, je la vends plus cher, mais tu l'as dit à ton client. Moi, c'est ça que je te fais. Puis je me prends ça de plus, puis c'est comme ça. Le gars, il l'accepte ou non. Anyway, un autre va l'acheter. Tu comprends? Mais
oui.
Bullshit pas. Ça, là...
Combien de fois qu'on a eu, comme tu dis, des messages des gens qui sont comme, ben, tu sais...
Il en revenait pas.
J'ai suivi tes conseils, j'ai commandé mon véhicule, le prix faisait mon affaire, puis là, j'arrive, boum, un premium.
Puis le gars est pas comme, oh, c'est pour un premium, puis c'est comme ça. Il bullshit que c'est un frais mystérieux obligatoire. Non, arrête. Moi, ça m'explose la tête. Puis même quand nous, des fois, on va chez des expériences en concession, il y en a qui sont excellents. Il y en a qui font vraiment bien leur job, il y en a que non. Puis, mais quand ils commencent à te bullshitter, puis là, ouais, mais c'est à cause de telle affaire finalement, puis là, il dit de la merde, puis là, moi, je suis comme, oh, moi, je pogne les nerfs. Je me dis, mais pourquoi bullshitter comme ça?
L'affaire qu'il y a, c'est que c'est tellement dur d'avoir confiance au concessionnaire de nos jours parce que même si le propriétaire, la direction, tout ça, il y a tout le temps comme une pompe au rythme. Là, t'sais, ouais. Caricature là, de concessionnaire qui essaie de crosser le monde. Là. T'sais, c'est comme dans tous les concessionnaires, on dirait qu'il y en a un tout le temps. Là.
Ouais.
C'est ça qui arrive. T'es comme, c'est ça, des fois, nous autres, on est comme, ben, là, les gens, ils font comme, c'est où je devrais aller? Puis ça, c'est comme, on a tellement de difficulté à vous dire, ah, va à telle place. Parce que des fois, ah, tu vas dire, ah, va à telle place. Le service est super bon, mais les ventes sont pourrites. Ou vice versa.
Mm-hmm.
Les ventes sont super bons, mais le service est pourri. Où là, toi, tu as eu une super expérience, mais là, ils viennent d'engager un petit nouveau parce qu'il manque de staff, mettons, dans les ventes. Là, moi, j'appelle ça, tu sais, un crosseur qui change de tous les dealers, tu sais, là, qui il va 3 mois, 6 mois une place, puis après ça, il crosse du monde, puis après ça, il change de dealer. Ça arrive tout le temps.
Mm-hmm. Ah ouais.
Tu sais, ça, c'est. Là, c'est comme. Là, tu dis, ben, va à tel concessionnaire, là, il pogne ce gars-là. Là, t'es comme, ah. Oh.
Puis
c'est,
vous
n'avez
pas idée.
C'est pour ça, tu sais, comme on donne un exemple. Nous, quand on a acheté notre TRX, on est allé dans un petit concessionnaire. Mais tu sais, des fois, dans un petit concessionnaire, dans une petite ville, quand tu commences à crosser le monde, c'est plus tough un peu. Le mot se passe.
C'est ça.
Le monde reste là plus longtemps parce qu'il se crée une clientèle.
Mm-hmm.
Tu sais, des fois, c'est tu sais, je sais qu'ultimement, avec le temps, ils ont comme éliminé un peu les petits concessionnaires des villages. Mais des fois,
c'était eux qui étaient le mieux placés.
C'est ça. Je trouve qu'ils faisaient une meilleure job des fois que les méga dealers, là, des fois.
Ils ne faisaient pas des méga ventes.
Ils ont un roulement d'employés, là.
Ouais. Oh non. Je suis vraiment, là. C'est un sujet. Puis vous n'avez aucune idée combien il y a de gens par semaine qui nous écrivent quel char je devrais acheter. Quel dealer je devrais faire affaire. Je me commande un véhicule neuf. Où je dois aller, on en conseille chaque semaine des gens là-dessus.
Puis il y en a beaucoup d'entre vous qui nous contaient des histoires là, qu'on pourrait faire du drama comme le logo aux États-Unis.
Oui, mais on n'est pas JE.
On n'a pas une équipe de marketing avec nous. On fait pas assez d'argent pour avoir des poursuites judiciaires sur le dos. Là.
Ouais.
Tu sais, j'en ai qui me dit, ben moi, j'ai ramené mon véhicule, puis là, après ça, mon véhicule, je l'ai vu affiché, puis il y avait moins de millage.
On s'en est fait compter beaucoup d'histoires, là.
J'ai dit, c'est bien plate, merci de me l'avoir dit, qu'est-ce qui s'est passé, mais tu sais, je peux pas.
On commencera pas à nommer des noms puis exposer des gens pour se mettre dans un état d'avoir des poursuites. On veut continuer de faire notre job et de bien vous conseiller. Fait qu'à la place, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand on est au courant de ces histoires-là puis quelqu'un vient nous dire, hey, chez qui j'aimerais faire affaire, mais on fait juste pas nommer la personne qu'on sait qui a fait du trouble. On conseille un autre endroit. C'est tout.
Puis, tu sais, on fait toute partie un peu de la même famille, là. Veux pas, là. On n'est pas contre les concessionnaires.
Mais non.
On travaille avec les concessionnaires. On fait vendre des autos. J'espère qu'ils l'apprécient un peu.
Ouais.
Mais tu sais, on en fait vendre des autos. On fait les préliminaires, là, puis le réchauffement, là, avant que tu closes. Souvent, c'est nous autres qui l'a fait.
Hey, il y en a combien? Faudrait screenshotter nos messages, puis des fois les mettre en story ou peu importe, de toutes les gens qui sont comme « Je viens de commander tel véhicule chez tel concessionnaire suite à ton conseil et ton épisode.
Ouais. »
On en a minimum 5 par semaine, quasiment.
Oui.
On en a vraiment. Non, mais tu sais, juste de. Ça fait combien là, de ventes? Là? Juste par semaine, juste à faire un peu de podcast.
Je nomme personne. Ben oui, je me souviens même plus qui m'a dit ça. Quand on était au VIP à Montréal,
oui.
Le commentaire qu'on a reçu, on dit oh, on fait tel type de contenu, on conseille les gens. Puis nous ont. C'est quelqu'un qui évoluait dans le concessionnaire. Ils font comme ah, elle dit fait que vous êtes plus du côté du consommateur que des concessionnaires. C'est comme...
On est du côté des gens qui veulent s'acheter un véhicule.
On est là pour conseiller les gens.
C'est ça.
Pour crasser les gens.
Mais...
Tu sais, ils veulent défaire tout le temps leur réputation de crasseur. Mais tu sais, ils disent tellement des affaires. Tu sais, c'est comme... Je l'ai dit l'autre fois, j'étais dans... En tout cas, j'étais à un endroit, puis il y a quelqu'un qui est venu me parler, puis il me dit... Hey, il dit, qu'est-ce qui est arrivé à ton Yukon? Puis là, j'y parlais, tu sais, oh, je m'ai fait voler mon Yukon, blablabla. Puis... Il y avait quelqu'un qui était pas dans notre discussion, puis qui traîne dans des concessionnaires. Il fait comme, ah, ça, c'est bon quand le monde sont volés des chars, on vend plus de chars. Arc!
Sans niaiser. Moi, je vais juste dire ça. Si, je vais dire, ça va faire mal, attention. S'il y a des concessionnaires qui nous aiment pas, mais c'est peut-être des red flags parce que moi, tous les concessionnaires avec qui on discute ou on fait affaire ou on parle puis qui font bien leur travail, qui ne crossent pas les gens, bien, ils nous apprécient. On fait vendre des véhicules, vous comprenez?
Oh oui.
Fait que si quelqu'un est comme fou, comme... Puis on en a. Hey. Tu sais, je ne veux pas en rajouter, là, mais des fois, il y en a qui sont culottés. Il y en a que, exemple, je compte une aventure sur nommé personne. Une certaine marque d'un certain concessionnaire que le gars nous appelle pour chicaner Jules. Il a trouvé le numéro de téléphone à Jules. Il a appelé Jules pour le chicaner de retirer un vidéo sur X véhicule qu'eux tenaient en stock pour vendre parce qu'ils étaient choqués qu'on a montré quelque chose qui était qu'on n'appréciait pas de ce modèle de véhicule-là et ça bloquait des ventes et ils voulaient qu'on retire la vidéo.
Oh,
ils étaient choqués
comme...
qu'on avait dit la vérité au monde.
Je vais te donner de la marbre puis toute la quitte. Puis...
Nous, on était comme, on a ri, on a raccroché, puis on a continué notre vie. Hey, tu commenceras pas à me dire quoi dire ou pas dire aux gens. Si j'essaie un produit puis il est bon, je vais le dire qu'il est bon. Si j'essaie un produit puis il convient à telle ou telle personne, je vais dire à cette personne-là, ça te convient. Si j'essaie quelque chose qui est pas bon, ou je vois quelqu'un qui est comme pas correct avec les autres, bien, je conseillerais pas aux gens d'aller voir cette personne-là. C'est tout. C'est juste qu'on est vrai puis c'est comme ça. Mais je pense que le monde, mais gars, qui vivent avec, ça dérange-tu? On est comme ça. C'est
moi, qu'est-ce que j'haïs, puis qu'est-ce qui arrive souvent, c'est que quand on rentre dans une concession, souvent, ils nous traitent comme si on était des cons. On connaît rien aux autos. On arrive au service, c'est pas comme si on ne connaissait rien à la mécanique. Tu sais, je te l'ai dit là, l'autre fois, tu sais, comment que il y a une personne, une fois, à un moment donné, au service, qui était un peu sec, puis bête avec mon père, puis il rappelait pas, puis il faisait pas sa job à moitié. Ouais. Puis je disais, comme, tu sais, je disais à mon père, laisse-toi pas traiter de même.
Non.
Puis tu sais, mon père, il a géré plusieurs business avec beaucoup de machinerie. Passant de bulldozer à tracteur à petite machinerie à pick-up, tout le kit. Tous les jours, il commandait des pièces. Tous les jours, il commandait des équipements, des deals avec des gens qui travaillent au service. Prends-les pas pour un deux de pique, là. Respecte-le, là.
Moi, ce que... non, mais ce que j'en dis, c'est que si t'es capable de manquer de respect comme ça, puis de traiter comme un con quelqu'un qui connaît ça, tu traites comment les gens qui ont moins d'expérience puis qui t'accordent leur confiance?
Ah! Même dans le temps, à un moment donné, mon père, il était comme... mon logo sur mon camion, il s'en vient tout fader. Je pourrais-tu avoir un nouveau logo ou ça peut-tu passer sur la garantie, cette affaire-là? Puis le gars au service, il a répondu, « Ah, mais ton gars, il travaille pas pour cette compagnie-là. Il va t'en trouver un logo, lui. » Tu sais, c'était comme... Arc!
Mais...
La pire fois, là, OK? J'étais arrivé... moi, je m'avais commandé des spark plugs Ford Racing pour mon Mustang. OK?
Oui.
J'étais arrivé pour faire. J'ai dit, ah, je vais faire un entretien sur mon Mustang, je vais aller au concessionnaire. Là, j'ai dit, je pense que je les avais commandés là, OK?
OK.
À leur département de pièces.
Oui.
Puis je voulais les installer moi-même, puis en fin de compte, j'étais comme, ah, peut-être que j'aurais pas le temps. Fait que là, après ça, j'ai dit, ah, je vais changer d'idée, je vais faire installer mes spark plugs, mais je vais emmener mes spark plugs, puis c'est des Ford Racing. La fille au service, elle me dit, mais là, tu peux pas amener tes pièces, puis on donne pas de garantie si tu amènes tes propres pièces. Là, je suis comme.
Tu viens de t'es acheter.
C'est des Ford Racing. Tu sais, chez Ford, c'est même ça marche. Tu as des pièces normales, genre. Là. Tu vas avoir un Jobber, tu vas avoir du Motorcraft, puis tu vas avoir du Ford Racing.
Mm-hmm.
J'ai dit, tu peux pas avoir plus haut et plus certifié pour mon Mustang que ça. Non, c'est pas de même que ça marche, puis on va te charger quand même le prix des spark plugs. Là, je suis comme. Là, j'ai dit, ça prend combien de temps à changer les spark plugs? Oh, ça peut être 6 heures de temps. Là, je suis comme, quoi? Tu sais, je voulais pas insulter. Je m'en fous que c'était une femme ou un homme. Là. Ça aurait été un homme, ça aurait
été un
homme.
Ça aurait pu être une poulie, je
crois. J'ai dit, tu connais rien. Je m'ai choqué, puis à la place d'aller au concessionnaire, je m'ai arrangé moi-même.
Ouais.
J'ai changé mes spark plugs.
Mm-hmm.
Je suis comme. Tu sais, allez, gars. C'est, je veux pas rentrer dans
un. Non! On s'en va dans un débat. Non, en tout cas.
On revient au TRX. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on regarde le marché vite fait, là. Puis, j'en ai sauvegardé un sur mon téléphone. J'ai trouvé un des TRX les moins chers.
J'ai hâte de voir le montant.
Attends une minute. Non, mais il est vraiment. Il est aux États-Unis, bien sûr, là. Mais c'est un modèle 2021, fait que c'est comme le plus vieux que tu peux avoir dans TRX. Il y a 108 000, fait quasiment 140-150 000 kilomètres. C'est beaucoup pour un TRX.
Ah ouais.
Puis il vaut encore un bon 62 000 US. Ça, c'est l'un des moins chers que j'ai trouvé. Puis tu sais, il est sûrement magané, là. Fait que c'est juste pour vous dire, là, c'est un camion qui garde bien sa valeur. Puis c'est pour ça aussi que tous ces gars-là que je vous ai dit aujourd'hui, qui sont sur YouTube, ces affaires-là, ils achètent ça.
Mm-hmm.
C'est pas des cons, ceux-là. Là. Oui, le camion est fantastique. Oui, le camion est le fun. Oui, ça va bien vous faire du contenu puis ces choses-là. Mais c'est un investissement. Puis ces gars-là sont pas cons. Les Stradman puis des DDI, ces affaires-là, là, les autres, ils flippent tout le temps des supercars. Ils perdent pas d'argent. Au pire, ils vont arriver kiff-kiff, mais ils vont avoir fait de l'argent avec leur contenu. Ou des fois, ils vont faire attention à leur véhicule puis ils vont faire un profit.
Oui.
Tu sais, je sais qu'on parle de supercar, puis tu sais, TRX, c'est un super truck. Mais il y a certains véhicules clés comme ça qui ne gardent pas qui gardent leur prix. Puis de ce temps-ci, il y a beaucoup de véhicules sur le marché qui déprécient extrêmement beaucoup.
Oui.
En Angleterre, les Porsche sont à la dégringolade. Le BMW XM est un flop total. Les Taycan n'arrêtent pas de perdre la valeur. Les Lucid perdent la valeur. Puis il y a même des. Tu sais, c'est pas juste des véhicules électriques, c'est des Porsche, puis des BMW XM, ces affaires-là. Il y a des Aston Martin, ces affaires-là, qu'on pense que peut-être que ça va garder leur prix, puis ça dégringole.
Oui.
Fait que. Alors, dites-nous dans les commentaires, quel véhicule, selon vous, est un bon investissement en 2024? Le printemps arrive. Aimeriez-vous ça qu'on fasse un épisode, genre, mettons, avec tel budget, quel véhicule qui serait bon rouler par l'été puis pas trop perdre d'argent? J'ai un de nos abonnés qui nous a envoyé pas un email, mais une question là, dernièrement, puis me demandait si un Shelby GT500 décapotable, c'est un bon investissement versus un autre véhicule, puis je l'ai conseillé. Est-ce que vous aimez ça, ce genre d'épisode-là? Laissez-nous le savoir dans les commentaires.
N'oubliez pas de liker et partager l'épisode et on se retrouve dans un prochain podcast.